C'est là ma prière. Je t'écoute, ô Père. Et à toi,
bonjour à tous. Je dis merci à Dieu qui a voulu que je puisse me mettre devant vous aujourd'hui pour conduire sa parole, la méditation, la réflexion sur ta parole que nous trouvons dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 9. Nous allons sauter au verset 12e. Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 9. Et nous allons sauter jusqu'au verset 12. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, ayant du zèle persécuteur, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par qui? Par Jésus-Christ. Dans ce texte, qui est très long, nous voulons réfléchir sur le thème de l'année pour notre paroisse, restaurer pour conquérir. Mais il y a un sujet qui ressort du texte, et c'est sur lui que nous allons focaliser notre attention ce matin, sujet qui est intitulé « De Saul à Paul, un excellent exemple de la restauration pour devenir un conquérant ». Nous voulons réfléchir sur la vie de Paul, comment il est passé de Saul à Paul pour devenir un conquérant dans les domaines de l'Évangile et de la foi chrétienne. On peut se poser la question de savoir pourquoi nous voulons réfléchir sur ce thème, sur ce sujet. C'est parce qu'en fait, nous venons chaque jour à l'Église, mais il est possible de retrouver parmi nous des personnes à qui si on lui pose la question: est-ce que tu es déjà restauré spirituellement? Il ne sait pas quoi répondre. C'est de cette manière-là que les églises qui naissent et qui sont bâties pour la plupart sur des doctrines fondées sur le sable emportent des personnes qui pourtant ont passé beaucoup de temps à l'église en écoutant la parole de Dieu, mais il y a quelque chose d'essentiel qu'ils n'ont jamais expérimenté dans leur vie. C'est pour cela que nous pensons que c'est encore utile de réfléchir sur un tel thème aujourd'hui. Alors, je voudrais que nous puissions réfléchir sur l'essence des deux mots dans notre thème. Le premier, c'est le mot restaurer. Restaurer signifie réparer quelque chose qui est devenu défectueuse, avec le but de renouveler la chose, de la remettre en bon état, de la rétablir dans son premier état, dans son état originel. C'est-à-dire, dans la Bible, si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver des versets, des paroles, des versets comme Psaume chapitre 23, verset 3, où le psalmiste dit « Il restaure mon âme ». L'essence du mot « restaurer » dans la Bible, c'est ce que je venais de vous dire là tantôt, c'est réparer ce qui est défectué. C'est renouveler ce qui commence à s'abîmer. C'est remettre à bon état quelque chose qui commençait à perdre ses qualités. Et l'état qui est recherché ici, c'est le premier état, l'état originel. J'ai dit bien, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 23, verset 3, où il dit « Il restaure mon âme ». C'est-à-dire, mon âme est dans un état qui n'est pas bon. Alors, il faut que le Seigneur intervienne pour me restaurer. Dans le Nouveau Testament, si vous explorez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, ces versets parle de comment Dieu veut nous restaurer aujourd'hui. Il n'y a pas de restauration si c'est en dehors de Jésus-Christ. C'est en Christ que chacun de nous doit trouver sa restauration. Ici, la restauration, ce n'est pas les manger, ce n'est pas les restaurants. Ici, la restauration, c'est le renouvellement. Le renouvellement dans notre fort intérieur. Le deuxième terme, c'est conquérir. Quand vous trouvez ce terme dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, c'est un terme qui est utilisé quand il y a guerre. Alors, conquérir va signifier arracher quelque chose d'entre les mains de quelqu'un. Après l'avoir arraché, vous vous appropriez, vous en prenez possession et vous dominez sur ça. Et ça ne se fait pas dans la paix. Il faut avoir combattu, il faut avoir livré une forte bataille pour conquérir. Il y a du travail à réaliser pour qu'on arrive à conquérir quelque chose, à se l'approprier, à devenir maître de ça et à lui imposer sa loi. C'est ce qui ressort de Josué chapitre 6, verset 20, lorsque la parole de Dieu dit « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. » S'emparer de quelque chose, c'est ça, conquérir. C'est-à-dire, lorsque la paroisse a décidé que durant toute l'année, nous allons parler de restaurer pour conquérir, l'objectif, c'est que chaque membre de cette paroisse, à la fin de cette année, il puisse s'assurer qu'il a expérimenté la restauration spirituelle dans sa vie, une expérience vécue, pas quelque chose dont il a entendu parler, il ne sait pas comment ça se passe. Chacun de nous doit savoir comment se passe la restauration spirituelle et chacun de nous doit savoir qu'il est invité à mener un combat de la conquête pour qu'il soit compté parmi les conquérants. Alors c'est ça qui est dit dans le texte que nous venions de lire. Et ici, on nous donne la vie de Paul, qui était Saul avant et qui est devenu Paul. Et c'est là que nous allons avoir la première leçon au verset 7. Et la première leçon qui nous dit, toute vraie restauration commence par la rencontre personnelle avec la rencontre personnelle réelle avec le Christ. Cette rencontre est une occasion où la personne qui expérimente cette rencontre fait la connaissance, la découverte de Dieu, de Jésus-Christ, et il reçoit la transformation de sa vie, une transformation radicale. Chaque restauration commence par le premier pas, la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Dans cette rencontre, on fait la connaissance réelle de Jésus-Christ et cette connaissance nous amène à une transformation de la vie. Si cela n'a jamais été une réalité de votre vie, c'est-à-dire que vous avez encore quelque chose, vous avez encore un pas à franchir parce que vous avez encore quelque chose qui cloche. Là où nous avons lu, dans Philippiens chapitre 3, versets 1 à 9 et à 12, si vous voyez le verset 7, il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, qui étaient pour moi avantageuses, qui étaient pour moi avantageuses, oui, qui étaient pour moi de grandes valeurs. J'étais tellement attaché à ces choses-là. Quand j'ai rencontré le Christ, j'ai commencé à regarder ces choses comme une perte. Comme une perte. Comme une dépense inutile. Comme quelque chose de précieux. Mais j'ai déjà perdu ça. Et je vois ça avec dédain. Et il dit, à cause de Christ. 8, il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alors, ce que nous devons noter ici, c'est que Paul rappelle ce qui s'est passé dans sa vie lorsqu'il quittait Jérusalem pour se rendre à Damas. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 6, vous allez comprendre que Paul est allé chez les sacrificateurs, il leur a demandé de l'aide pour lui permettre de voyager jusqu'à Damas pour aller mettre à prison et faire fouetter les disciples de Jésus-Christ à cause de cette nouvelle doctrine de Christ qu'ils étaient en train de prêcher. La Bible nous dit maintenant que quand il était à mi-chemin, il vit une grande lumière. Cette lumière l'éblouit. Il était sur un cheval, je crois, et il est tombé par terre. Il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il a posé la question, « Qui es-tu, toi qui dis que je te persécute ?» Et la Bible dit que le Seigneur a répondu, il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors il a répondu, il a dit, « Mais comment ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il a dit, « Lève-toi, entre dans la ville et c'est là que tu vas trouver quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire pour que tu sois transformé, pour que tu sois restauré et que tu cesses de me persécuter parce que j'ai une mission autre à laquelle je t'appelle. » La Bible insiste ici sur La connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Parce que le verset nous a dit, j'ai regardé tout ce que j'aimais avant comme une perte à cause de la connaissance de Christ. Et il va plus loin en disant, j'ai même regardé cela, j'ai considéré que c'est de la boue. Alors, lorsque la Bible parle de la connaissance de Christ, ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Parce qu'ici, on peut poser la question à tel, on dit, bon, est-ce que tu connais tel? Il dit, oui, je le connais. Mais lorsque la Bible parle de connaître, ce n'est pas de cette manière-là que la Bible parle de connaître. La Bible parle de connaître sous deux angles. Le premier angle, c'est que quand Paul dit « j'ai connu Christ », c'est parce que le terme « connaître » qui est là signifie à la fois connaître quelqu'un profondément et être connu par celui-là de la même manière. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser le terme « connaître » si on n'a pas une connaissance profonde de la personne. D'ailleurs, en hébreu, pour les Juifs, quand ils utilisent le terme « connaître », ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il connaît, il entretient des relations très, très profondes et intimes avec la personne qu'il dit qu'il connaît. Et cette relation très intime va loin jusqu'à ressembler à une relation qui existe entre un homme et sa femme. Parce que c'est l'homme qui peut dire « je connais ma femme ». Et c'est la femme qui peut dire « je connais cet homme ». Et quand ceux-là disent qu'ils se connaissent mutuellement, c'est une connaissance, non pas une connaissance ordinaire. C'est une connaissance particulière. Une connaissance qui fait que l'homme peut connaître sa femme dans tous les détails. Il n'y a personne qui peut expliquer ma femme à moi si ce n'est pas moi. Il n'y a personne qui peut expliquer à ma femme ce que je suis, si ce n'est pas à elle d'expliquer ce que je suis. C'est ce genre de connaissance dont il est question dans ce que Paul dit à cause de la connaissance de Christ, j'étais obligé de migrer, j'étais obligé de changer de position, j'étais obligé de me retrouver dans une transformation que moi-même j'ai difficile à expliquer dans les détails. Alors cette connaissance qui est une intimité entre Paul et Christ, cette connaissance qu'on nous demande chacun d'avoir comme Paul l'a eu, pour que nous puissions passer de Saul à Paul, a trois éléments. Le premier élément se trouve en Éphésiens chapitre 1 verset 3 où Paul dit « béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Paul dit, nous avons été bénis. Après avoir dit des choses là-bas, il va au verset 7 et il dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » La connaissance de Jésus-Christ nous amène à expérimenter la rédemption. Le terme « rédemption » ici signifie la délivrance. La délivrance qui s'opère là où quelqu'un était lié, ligoté, et les chaînes qui les liaient étaient très fortes, de manière que ces chaînes ne pouvaient pas être rompues n'importe quand, n'importe comment. Et alors, il n'y a que Christ qui vous croise dans ces liens, vous êtes ligoté, alors il intervient sur ta vie pour briser ces chaînes. Et ici, la Bible mentionne que la rédemption s'est faite par le sang de Jésus-Christ. Alors, quand cette rédemption se réalise, lorsque les chaînes du péché tombent par la puissance du sang de Jésus, dès ce moment-là, nous recevons la rémission de nos péchés. Dieu voit les miracles qui s'est opéré dans ma vie et il dit, je te pardonne tous tes péchés. Et c'est là que nous chantons, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est où? La force est en Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus agit dans ma vie, je suis délivré. Quand le sang de Jésus agit dans ma vie, les chaînes tombent. Quand le sang de Jésus intervient dans ma vie, je considère que tout ce que j'ai fait et que j'ai considéré comme quelque chose de valeureux, je considère ça comme une perte. Alors, il n'y a pas de délivrance sans transformation. Tout le monde qui a expérimenté l'action du sang de Jésus-Christ a été transformé ces jours-là. Quelqu'un qui dit avoir expérimenté la puissance du sang de Jésus-Christ et qui reste comme il a été, alors il est encore Saul, il n'est pas encore devenu Paul et il lui sera difficile d'être un conquérant. Amen. Amen. En fait, il y a un autre élément que je voudrais que nous puissions appréhender un peu. C'est dans le verset 8 où il dit « Et même, je regarde ces choses comme une perte. » Ça a déjà été dit. « À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et il continue « Pour lesquels j'ai renoncé à tout. » Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je vais insister sur deux choses là-bas. Paul dit qu'à partir du moment que ce miracle de la délivrance et du pardon, de la rémission des péchés a été accompli dans sa vie, la Bible dit qu'il connaît Christ comme Seigneur. Christ est sauveur, il est aussi Seigneur. Ce qui vient avant, c'est le sauveur. C'est lorsqu'il m'a déjà sauvé qu'il devient mon Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui règne, c'est celui qui commande, c'est celui qui domine, c'est celui qui dit tout ce qu'il faut faire et on fait, et c'est celui qui dit tout ce qu'il ne faut pas faire et on évite. Amen. Amen. Alors donc, nous devrions être des chrétiens qui savent que Christ est Seigneur. Nous sommes dans une relation intime avec Christ qui est mon Seigneur et il règne sur moi. Il n'y a pas de Seigneur s'il n'y a pas de personne sur qui la Seigneurie s'exerce. Il est Seigneur seulement lorsque moi j'ai accepté sa Seigneurie sur moi. Et j'ai dit, quand il me dit non, alors j'ai dit aussi, je m'abstiens. Quand il dit oui, alors je m'efforce à faire, même si c'est difficile, je compte sur lui pour que je réussisse à exécuter ce qu'il m'a demandé d'exécuter. Alors ici, le deuxième élément, c'est que la Bible dit, après cette opération-là, j'ai renoncé. J'ai renoncé. Si nous sommes là, et que nous nous appelons chrétiens, et que dans notre marche de chaque jour, nous apparaissons comme si nous n'avons jamais renoncé à des choses qui déplaisent à Dieu, alors cela vient mettre une croix sur tout ce que nous pouvons dire sur notre foi à Christ. En fait, le témoignage de Paul ici n'est pas un témoignage que nous devons seulement dire dans la bouche, c'est un témoignage qui doit se faire constater parce que la transformation doit être reconnue et par la personne transformée et par le Christ qui m'a transformé, mais aussi par les personnes qui m'entourent. Quelqu'un peut être à côté de moi et il nie ma transformation. Mais si ma transformation est réelle, la personne là va peut-être se dresser devant moi pour essayer de lui montrer comme identité, Mais la réalité, c'est que dans son cœur, même s'il ne le dit pas, il sera en train de dire, même si je suis en train de le déranger, il est un homme de Dieu. Amen. Il peut te déranger, mais dans son fort intérieur, il sait que tu es. Tu as été transformé et que les chaînes ont été brisées et tu es une nouvelle créature et tu marches sous la seigneurie du Seigneur. Alors ça m'a étonné quand même quand j'ai réfléchi sur ce texte, quand j'ai lu la boue. La Bible dit, je regarde tout ce que je faisais avant, tout ce à quoi j'ai renoncé, je regarde ça comme la boue. Alors, quand j'étais en train de chercher les mots qui a été traduit par boue, j'ai constaté que cela signifie quelque chose de détestable, comme des excréments. En fait, ça m'a quand même tiqué de dire, mais comment on peut écrire les excréments dans la Bible? Dieu n'a pas honte de dire toute la vérité sur ce qu'il veut que les gens puissent savoir, parce que il faut que chacun comprenne la teneur de chaque mot, parce qu'il n'y a pas, un seul mot qui est placé dans la Bible telle part et qui n'est pas à sa place. Chaque mot est à sa place dans la Bible et chaque mot a sa valeur et nous devons l'accepter en tant que tel. Si le péché n'a jamais ressemblé à des excréments dans ta vie, si dans ton cœur, tu continues à nourrir le désir de faire ça, mais ce qui t'étouffe seulement, c'est de dire, bon, quand je vais faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand je vais faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et quand ce qu'ils peuvent dire ne seront pas là, alors tu seras libre de faire parce que tu penses qu'il n'y a personne qui va dire. La Bible veut que nous puissions regarder les péchés comme des excréments. Parce que si vous êtes en démarche quelque part et vous piétinez les excréments, si vous étiez en train d'aller à la fête, je crois que vous devez décommander, vous dites, bon, je n'y vais plus, même si on va beaucoup bien manger, mais je n'y vais plus parce que je risque de me faire ridiculiser. Les excréments, c'est détestable. Alors, il y a des personnes dans l'église qui sont à l'église et qui continuent à pratiquer les péchés. En tout cas, ça veut dire que l'opération du sang de Jésus n'a jamais agi dans leur vie. Parce que ce que le sang fait de nous, c'est de nous faire considérer les péchés comme des excréments. Alors, si quelqu'un peut continuer à marcher dans les excréments, à dormir dans les excréments, à manger dans les... Je m'excuse beaucoup parce que je risque d'aller trop loin. Si quelqu'un continue à se comporter comme ça, dites-vous, il est encore très loin de l'action du sang de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous appelons Jésus pour qu'il entre, qu'il nous transforme, qu'il nous lave par le sang, qu'il transforme notre vie, la première chose, c'est ça qui arrive, détester les péchés comme on déteste les excréments et on y renonce. Si on n'a pas encore fait ce pas-là, ça veut dire qu'il y a encore à faire. C'est la deuxième leçon que je voulais que nous puissions apprendre. Toute vraie restauration implique une transformation radicale de la vie qui est perceptible à la fois par la personne transformée et aussi par ceux qui entourent la personne qui a été transformée. Parce que c'est une transformation qui est caractérisée par la haine du péché et la renonciation au péché. C'est à toi de voir si tu as déjà franchi ce pas-là. Si tu n'y es pas encore, c'est aujourd'hui le jour de ton salut. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le temps de ta transformation. Le sang est encore disponible avec toute la puissance pour te transformer, pour briser tes chaînes et pour faire que tu commences à regarder les péchés comme des excréments. Troisième leçon, toute vraie restauration dans la vie d'un chrétien est suivie par un engagement très résolu de se discipliner. de manière à ce que on ne vise que ce qui plaît à son Seigneur. Tout ce qui va venir déplaisant au Seigneur, nous allons nous efforcer à ne pas y toucher. En fait, vous savez, il y a des chrétiens parmi nous, des personnes qui se disent chrétiens, mais ils ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de pêcher. Vous savez que pêcher, ça demande aussi des dépenses. N'est-ce pas ça? Quelqu'un n'a pas l'argent à dépenser pour pêcher, alors il ne pêche pas. Et il va dire, bon, vous voyez, nous sommes chrétiens. Attends les jours où il va avoir un peu seulement, un peu d'argent. Là, il va alors montrer sa vraie couleur. Et que le Seigneur nous aide. Parce qu'en fait, nous sommes chrétiens, qu'il y ait argent ou non, nous sommes et nous restons chrétiens. Parce que nous avons été transformés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Si l'argent fait brûler les visibles de ta vie, de ta foi, alors ce n'est pas encore une foi. La foi chrétienne résiste à tout. Que ce soit l'honneur, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, il reste quoi? Il reste quoi? Ce que vous venez de dire là, que ce soit ça, c'est à quoi vous venez de penser là, que ce soit ça, la foi résiste. Amen. Si le visible de ta foi ne résiste pas devant l'argent d'autrui, alors dites-vous qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a quelque chose, il y a un pas que tu n'as pas encore franchi dans ta vie et il faut que tu acceptes de la franchir maintenant. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance, c'est aujourd'hui le jour de ta transformation parce que Christ est à la porte de ton cœur, il veut entrer. Il est en train de frapper, il veut entrer parce que c'est pour ça qu'il vient en toi. C'était la troisième leçon et c'est là que je vais terminer. Ça nous demande du travail. Parce que quelqu'un qui a été transformé, quelqu'un qui a renoncé au péché, quelqu'un qui est entré dans une relation intime avec Jésus, Jésus le connaît et il le connaît aussi, la personne. Ça rappelle un peu ce qui est dans Colossiens chapitre 2, verset 16. La Bible dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et ceux-là qui savent qu'ils appartiennent au Seigneur, qu'ils fassent quoi? Qu'ils s'éloignent du péché. En fait, l'appartenance au Seigneur, ça fait que nous puissions nous éloigner automatiquement du péché, comme on s'éloigne des excréments qui puent. C'est automatique. Si cet automatisme n'est pas encore installé en toi, dites-vous qu'il y a quelque chose qui cloche et le Seigneur t'attend pour que tu puisses arranger avec lui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a le repos auprès du Seigneur. Alors, je termine en disant ceci. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 et 27, a dit ceci. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je la tiens assujettie de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Nous prêchons lorsque nous nous tenons ici pour parler à la congrégation. Ça, ce sont les pasteurs et ceux-là qui ont le privilège de passer à la chair, même s'ils ne sont pas pasteurs, parce que le Seigneur a déposé quelque chose chez eux. Les autres prêchent en chantant. Les autres prêchent, je ne sais pas de quelle manière, mais la Bible, Paul dit ceci, après avoir été transformé, le travail a commencé. Parce que dès que Paul a reçu le Seigneur, dès qu'il a expérimenté la puissance du sang de Jésus-Christ, la puissance dont il parle ici,
Dès qu'il a expérimenté cette renonciation, cette transformation qui commence à l'intérieur, de manière à ce que ce qu'il aimait le plus, il a renoncé à ça. Si vous aimez la cigarette et vous n'avez pas réussi à renoncer à ça, vous vous efforcez tout simplement, il y a encore un problème. Si vous aimez l'alcool, vous aimiez l'alcool et vous vous efforcez parce que tout simplement, la sebe, quand on dit, bon, c'est lui qui boit, il n'est pas chrétien. Vous êtes venu dans la sebe, quand vous savez que la sebe, quand on dit, on ne boit pas. Efforcez-vous à entrer en contact dans cette relation avec Christ qui vous transforme pour que vous puissiez renoncer à tout ce qui déplaît au Seigneur. En fait, il y a des personnes, j'ai dans ma famille quelqu'un à qui on a cherché les médicaments pour cesser à boire l'alcool. Alors, il a dit qu'il devient chrétien et on lui a donné les médicaments. Il est vrai qu'il ne boit plus. Mais je me pose la question, c'est le médicament qui a travaillé ou c'est le sang de Jésus qui a travaillé? Donc, c'est un problème. Nous devons être sûrs que ce qui a transformé notre vie, ce n'est pas le médicament anti-boisson, mais c'est le sang de Jésus qui est le médicament par excellence pour me faire cesser tout ce qui m'attire loin de la volonté de Dieu. Amen. Alors, donc, il y a du travail qui commence. Il n'y a pas de chômeur dans la foi chrétienne. Tout le monde qui a été lavé par le sang de Jésus, qui a été transformé, qui a renoncé au péché, qui a regardé le péché comme de la boue, comme des excréments, tout le monde qui est arrivé à ce point-là, il s'engage. Il doit être engagé à l'Église. Il ne peut pas venir chaque fois à l'Église, il s'assoit et il rentre le soir. Non. Il doit être engagé dans les ministères à l'Église. Il peut ne pas être engagé dans tous les ministères, mais au moins c'est quelqu'un qui s'engage dans les ministères de partager sa foi avec les autres. Parce qu'en fait, ceux qui ne sont pas sauvés veulent savoir comment nous, on a été sauvés pour qu'ils soient sauvés. Alors si nous, on s'était, ils vont rester à côté de nous sans être sauvés. Le premier ministère dans lequel nous devons être engagés, c'est l'évangélisation. Si vous êtes choqué par le mot évangélisation, on peut l'écarter, on dit c'est le témoignage de sa propre foi. Vous pouvez ne pas connaître beaucoup de versets dans la Bible, mais lorsque vous étiez sauvés, vous avez écouté la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Parlez seulement de ce qui s'est passé lorsque vous avez reçu le Seigneur, pour aider celui qui n'est pas encore sauvé à être sauvé, et vous aurez accompli la mission, la volonté de Dieu. Nous sommes tous appelés à un engagement. Ceux-là qui n'ont jamais effectué les pas de la conversion, de la transformation, pour être rendus capables de renoncer au péché et d'aimer Jésus à cause de la connaissance intime qu'on a eue avec lui, ils sont appelés à exploiter les moments présents. Parce que demain peut ne pas être pour vous. Amen. Ceux-là qui ont franchi ces pas-là et qui restent sans rien faire dans l'Église, ils ne peuvent pas savoir témoigner de leur transformation, de leur conversion. Ils ne savent pas dire comment ils ont fait demi-tour. Ils ne peuvent même pas savoir c'était quel jour, c'était où. Parce qu'en fait, quelqu'un qui dit, moi je suis sauvé, mais je ne peux pas savoir j'étais sauvé quand et où. Ah, nous, en tout cas, quand nous étions encore très chauds, à une personne comme celle-là, on pouvait dire, non, assis-toi, tu n'as quoi en j'atteins. Parce que, moi j'ai l'habitude de dire, il vaut mieux que tu te trompes que tu n'es pas sauvé alors que tu l'es, et de profiter de l'occasion présente pour être sauvé, que de te tromper que tu es sauvé alors que tu ne l'es pas, et de ne pas profiter du présent et du maintenant de la Bible pour saisir le salut. Mettons-nous tous debout. Nous allons prier ensemble. Il vaut mieux te tromper que tu n'es pas sauvé alors que tu l'es et profiter du moment présent pour recevoir ton salut, pour recevoir Jésus et être sauvé, lavé par le sang et transformé par Christ. Redémarrer avec Christ aujourd'hui, maintenant, que de te tromper que tu es déjà sauvé et ne pas profiter de l'occasion présente et lorsque Jésus reviendra, il te dise « Alors, montre-toi le chemin et ce sera le chemin de la perdition. » Inclinons nos têtes dans la prière. C'est toi qui connais bien ton cœur. Peut-être que Jésus se tient encore à la porte de ton cœur, il frappe. Il veut entrer parce qu'il veut te sauver. Il veut te laver par son sang. Il veut que tu reçoives ta transformation intérieure et spirituelle aujourd'hui de manière à ce que par sa puissance, tu renonces au péché en le regardant comme des excréments. La puissance, la force est dans le sang de Jésus. Appelle Jésus dans ton cœur maintenant. Demande-lui de te laver. Demande-lui de demeurer à toi et d'être le Seigneur de ta vie, le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Peut-être que tu as fait ce pas il y a quelques mois, quelques temps, quelques années, mais tu n'es pas encore engagé. Tu ne sais pas qu'il y a du travail que le Seigneur te demande. Tu ne sais pas que c'est un impératif de partager ta foi avec les autres pour qu'ils soient sauvés. C'est maintenant que tu dois le faire. Engage-toi. Renouvelle ton engagement devant Dieu et accepte que par sa puissance, que la puissance du sang puisse t'émener et faire que tu deviennes quelqu'un qui marche avec lui dans sa crainte, accroché à sa volonté dans chaque jour de ta vie. Père Céleste, nous te disons merci parce que tu as voulu que cette parole puisse être partagée aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard que ma sœur est venue aujourd'hui écouter de ta part. Ce n'est pas un hasard que mon frère a été conduit jusqu'à ces lieux pour écouter ta parole. Je te demande d'agir, Saint-Esprit, parce que tu es ici et il n'y a personne qui peut être attiré au Père et à Jésus s'il n'a pas été attiré par toi, Esprit Saint. Agis dans les cœurs de ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui n'ont pas encore été transformés par la puissance du sang de la croix, qui restent attachés au péché comme quelque chose de valeureux, et qui ne savent pas résister au mal et au péché dans leur vie. Visite-les, Seigneur, convainc-les par ta puissance. Toi qui seul sais convaincre du péché, de justice et de jugement, c'est ton travail, agis dans nos cœurs. Ceux-là qui ont fait ces pas, qui ont franchi le premier pas, qui ont été transformés, mais qui demeurent en dehors de ton œuvre, qui ne s'efforcent pas, qui ne se disciplinent pas à faire quelque chose pour gagner les âmes pour les royaumes, en partageant leur expérience du salut. Seigneur, ceux-là qui s'engagent aujourd'hui reçoivent leurs vœux, reçoivent leur engagement. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse tous.